Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien de l'actualité en cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et nous sommes le dimanche 6 octobre 2024, toujours en direct du Berry. Google a supprimé les applications de sécurité Android de Kaspersky du Google Play Store et a désactivé les comptes des développeurs de l'entreprise russe. Les produits concernés incluent Kaspersky Endpoint Security et VPN ainsi que les antivirus. Cette décision fait suite aux sanctions imposées par le gouvernement américain en juin 2024 pour des raisons de sécurité nationale. Kaspersky a confirmé l'indisponibilité de ses produits sur le Play Store, précisant qu'elle investigue la situation et travaille sur des solutions alternatives. En attendant, Kaspersky conseille à ses utilisateurs de télécharger ses applications via d'autres plateformes, comme le Galaxy Store ou directement à partir de fichiers .apk disponibles sur leur site web. Google a justifié cette suppression en réponse aux récentes restrictions imposées par le Bureau de l'Industrie et de la Sécurité du Département du Commerce américain. En septembre, Kaspersky a également remplacé son logiciel anti-malware sur les ordinateurs de ses clients aux États-Unis par UltraAV sans les informer, toujours d'après Bleeping Computer. Dans le cadre de la Cyber Threat Intelligence, la société Flashpoint nous informe que la campagne de spear phishing sophistiquée du groupe de hackers Star Blizzard, liée au FSB russe, a été perturbée par une action conjointe du département de la justice des États-Unis et de la Digital Crime Unit de Microsoft. Ce groupe, également connu sous d'autres noms tels que Callisto ou Blue Charlie, avait des cibles des think tanks occidentaux, des journalistes ainsi que des responsables militaires ou des contractants du secteur de la défense. L'attaque reposait sur des liens de phishing se faisant passer pour des sources de confiance, permettant ainsi le vol d'informations sensibles. Les autorités américaines et Microsoft ont réussi à saisir 107 domaines Internet utilisés par Star Blizzard, mais soulignant que cette opération ne suffit pas à éliminer la menace. Le groupe étant capable de modifier ses tactiques pour échapper à la détection, cette campagne s'inscrit dans un contexte plus large qui est la nouvelle guerre froide, où les États-nations comme la Russie exploitent le cyberespace pour mener des opérations d'espionnage, perturber des infrastructures critiques et lancer des opérations de transformation. The Register et le magazine Wired nous apprend que des groupes néo-nazis quittent Telegram pour migrer vers l'application SimpleX Chat, une plateforme chiffrée promouvant une confidentialité maximum. Ce déplacement fait suite à l'arrestation du fondateur de Telegram et de leader du collectif Terrogram, un réseau de propagande néo-nazi. SimpleX, qui offre un chiffrement de bout en bout et ne nécessite ni email ni numéro de téléphone pour l'inscription, est considéré par les extrémistes comme la plus sécurisée des plateformes. Les groupes extrémistes utilisent SimpleX, partagent des manuels de formation terroriste et appellent à la violence, tout en profitant de l'architecture décentralisée de la plateforme pour échapper à la surveillance. Toujours d'après The Wire, des limitations techniques empêchent l'application de devenir un véritable réseau social à grande échelle et les experts estiment que ces groupes pourraient abandonner SimpleX à long terme. Le fondateur de SimpleX, Evgeny Poberizkin, a affirmé qu'il n'était pas au courant de l'utilisation de sa plateforme par le groupe néo-nazi et que des mesures étaient prises pour retirer les contenus illégaux s'y découverts. Un sujet sensible à suivre sur l'utilisation de ce type de plateforme. On est toujours dans le fantasme que le fondateur de Telegram donne toutes les infos. C'est incroyable, quoi. Parlons maintenant d'un type de menace, les Phantom Domains, qui représentent une nouvelle menace pour la cybersécurité des entreprises, comme l'a relevé une étude lors de la Web Conférence 2024. Ces domaines fantômes apparaissent à la suite d'erreurs de saisie de liens non enregistrés ou de liens temporaires laissés dans des sites web par les développeurs. Une fois acquis par des hackers, ces domaines peuvent être utilisés pour créer des sites frauduleux, imitant les sites légitimes, dans le but de voler des informations d'identification ou de diffuser des malwares. On est presque dans du typo squatting ou du cyber squatting. C'est-à-dire qu'au lieu de déposer un nom de domaine avec le nom de votre entreprise en rajoutant une lettre ou en ayant la même définition, on va utiliser l'erreur de typo que va faire le développeur. Si par exemple votre site s'appelle stock.argent.com et puis il a mis argent avec un D à la place d'un T, les cybercriminels vont vérifier cette partie-là et ils vont dire « Ah, bah je vais déposer le nom de domaine ». Et ça va marcher super bien. Ces erreurs sont souvent causées par des fautes de frappe, laisse des fenêtres d'opportunité aux cybercriminels pour acheter ces liens et les utiliser à des fins malveillantes. Les domaines placeholder, quant à eux, sont laissés en attente de projets futurs qui ne se concrétisent jamais, permettent également aux attaquants de les exploiter. On estime qu'il existe plus de 572 000 de ces domaines actifs sur le web, créant un risque invisible mais constant. Pour contrer ces menaces, les entreprises doivent régulièrement analyser leur site web à la recherche de liens incorrects, ou de ce qu'on appelle les liens brisés, sensibiliser leurs employés. Bon, ça, c'est la partie que j'y crois le moins, parce qu'un développeur, il ne fait jamais d'erreur. Le développeur, dès que son code y tourne, il marche. l'utilisation d'outils de gestion des identifiants qui remplissent automatiquement les informations de connexion. On voit ça aussi dans certains développements pour gagner du temps. Bah, vous arrivez sur la page, il y a des identifiants, bah, automatiquement, c'est codé en dur, ça va rentrer. Bien que ces domaines ne représentent pas une menace immédiate, s'ils sont détectés à temps, ils soulignent l'importance d'une surveillance proactive et d'une vigilance humaine accrue dans le paysage numérique actuel. Malwarebytes nous avertit qu'une arnaque au faux support qui continue sur nos moteurs de recherche, en particulier Google Search, des escrocs ont mis en place de fausses pages d'activation pour des services de streaming comme Disney+, Netflix ou Prime Video, exploitant des techniques de SEO pour apparaître en haut des résultats de recherche Google. Lorsque les utilisateurs cliquent sur ces faux sites, ils sont redirigés vers un faux centre d'alerte de Windows Defender hébergé sur Microsoft Azure. Cette alerte affirme avoir détecté des images pédopornographiques via un logiciel espion nommé Allureon, tout en affichant du contenu pornographique pour pousser les victimes à paniquer. L'objectif des escrocs est de faire croire aux utilisateurs que leur ordinateur a été bloqué pour des raisons de sécurité. Un numéro de téléphone est alors fourni, incitant les victimes à appeler afin de permettre aux escrocs de se faire passer pour des représentants de Microsoft. En prenant le contrôle à distance de l'ordinateur, ils cherchent à voler de l'argent ou accéder directement au compte bancaire des victimes. Ces pages d'activation frauduleuses, bien que très convaincantes, sont entendues un leurre. On est sur vraiment les sites de faux supports. Chères auditrices et auditeurs, il est toujours conseillé de vérifier soigneusement les URL avant de saisir les informations sensibles sur les moteurs de recherche. The Hacker News confirme plusieurs vulnérabilités dans les produits Apple qui a publié des mises à jour critiques pour iOS et iPadOS. Afin de corriger deux vulnérabilités de sécurité, l'une d'entre elles, référencée sous la CVE 2024-44-204, permettait à la technologie d'assister VoiceOver de lire à haute voix les mots de passe enregistrés sur l'appareil. Cette faille, un large éventail de modèles d'iPhone et d'iPod ont été découverts par le chercheur de sécurité Bistrida, qui a été résolu via une validation améliorée. Bon, les appareils concernés incluent des iPhones jusqu'au XS et des modèles ultérieurs, ainsi que divers iPads comme l'iPad Pro 13 pouces, l'iPad Air 3e génération et l'iPad Mini 5e génération. Apple, bien entendu, recommande vivement aux utilisateurs de mettre à jour vers iOS 18.0.1 et iPadOS 18.0.1 pour se protéger. La deuxième vulnérabilité, la CVE 2024-44-207, spécifique au nouveau modèle d'iPhone 16, permettrait l'enregistrement audio avant que l'indicateur du microphone ne soit activé. En exploitant le composant Media Session, cette faille a été également corrigée. Finissons notre épisode dominical par un modèle fonctionnel de la machine de Turing construit en Lego et composé d'environ 2900 pièces, qui a été soumis sur la plateforme Lego Ideas. La machine de Turing, concept imaginé en 1936 par Alan Turing, est un modèle hypothétique capable de simuler tout algorithme informatique. Reproduire ce concept en Lego technique a posé des défis en termes d'ingénierie, de faisabilité, mais le constructeur, surnommé The Banana Man 2018, a réussi à créer un prototype fonctionnel après plusieurs années de développement et de révision. Le mécanisme utilise une bande avec un lecteur de symboles et un tableau de vérité sophistiqué, optimisé avant l'utilisation des registres. Initialement motorisé, le modèle fonctionne désormais avec une manivelle, c'est juste une tuerie, pour des raisons de sécurité et de coût. Bien que certaines parties du modèle soient fragiles, l'inventeur travaille sur des améliorations pour renforcer la stabilité de la machine. Ce projet a actuellement plus près de 4000 soutiens et doit atteindre les 10 000 votes pour être examiné par les experts de Lego qui détermineront sa faisabilité, son potentiel de production. Je vous recommande fortement de voter, juste pour le principe, pour permettre la mise en production, l'étude. C'est quand même pour nous, experts de la cybersécurité, la grande classe d'avoir une machine de Turing sur son bureau en Lego. Je compte sur vous, je vous donne tous les liens, ça coûte pas d'argent, c'est gratuit, c'est super cool. Et voilà, ce podcast de Radio Sessor du dimanche 6 octobre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou que vous souhaitez voir des sujets abordés dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous, prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, cette semaine, nous aurons l'occasion pour certains d'entre vous de se rencontrer à Monaco où nous ferons un numéro spécial. J'attends juste l'accord des organisateurs, ils m'ont promis qu'ils me répondraient pour demain. Sinon, bah, ça sera fait quelque part entre Monaco et Monte-Carlo sur la plage. À demain. Au revoir.